toutes les classes sociales, de tous les âges, de tous les genres, dans toutes les strates absolument de la société. Et puis être geek, c'est un terme effectivement très large, on s'en revendique le plus souvent, c'est une étiquette qu'on s'accole soi-même bien volontairement, et on n'a pas besoin de s'intéresser à toutes ces choses, jeux de rôle, jeux vidéo, science-fiction, pour être geek. On peut être geek en s'intéressant à une seule d'entre elles. Il n'y a pas vraiment de règles en la matière, donc c'est vrai que on parle souvent de communauté geek au pluriel, parce que voilà, c'est un très grand ensemble avec ses sous-ensembles, ses petits conflits internes, ses petites alliances aussi entre les amateurs de jeux vidéo et de jeux de rôle. Il y a des ponts entre les amateurs et amatrices de manga et de science-fiction, il y a aussi des ponts. Donc effectivement, on est aujourd'hui très très nombreux et nombreuses.
Mais vous nous invitez avec cet ouvrage évidemment à aussi pénétrer ou repénétrer, pour ceux qui la connaissent peut-être un peu moins, cette communauté geek qui est devenue une communauté qui fait partie et qui défend des éléments de la pop culture que l'on connaît tous et toutes, et qui ont traversé nos vies d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers les œuvres cinématographiques, littéraires, les jeux vidéo ou bien d'autres choses. Vous nous invitez à repenser peut-être la place et le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous dites-vous, les geeks ont pris le pouvoir, ils dirigent désormais certaines des plus grandes entreprises au monde, sont omniprésents dans les labos de recherche de pointe ou les services de renseignement, et leurs produits ont envahi notre quotidien. Ça fait presque peur quand vous le dites comme ça, Damien Leloup.
Ça peut faire un peu peur, mais bon, les geeks qui nous écoutent savent bien qu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de geeks. Alors, Elon Musk, pour parler du plus célèbre d'entre lui, mais aussi beaucoup d'autres, qui effectivement occupent des postes extrêmement importants dans le monde de la recherche, de l'entreprise, le monde politique aussi. Et du coup, il est temps aussi qu'on se pose un peu collectivement la question de qu'est-ce qu'on fait, nous, geeks, de ce pouvoir? Est-ce qu'on l'exerce ou est-ce qu'on le pense de manière un peu différente des générations précédentes et des gens qui ne font pas partie de cette communauté, et aussi de tirer peut-être les leçons des erreurs qui peuvent être commises et des exagérations qui peuvent être proférées, notamment par Elon Musk.
Est-ce que vous nous laissez là le cœur, peut-être, de votre livre et de votre recherche? Ce que vous nous invitez aussi à réfléchir, c'est qu'une certaine extrême droite tente depuis une bonne décennie de récupérer les cultures geeks. Les nouvelles droites ont bien compris ces cultures, que ces cultures représentaient une source de pouvoir, parce que, et ça c'est moi qui le rajoute parce que vous le décrivez ensuite dans le livre, c'est aussi une source électorale importante, et c'est bien de cette récupération dont vous parlez aussi dans cet ouvrage, notamment à travers l'image d'Elon Musk, qui aime bien se comparer à des figures, à des représentations de la pop culture geek, pour mieux aussi séduire un électorat, des clients, des consommateurs potentiels. Et c'est un peu aujourd'hui ce que vous dénoncez, c'est de voir comment on peut manipuler aujourd'hui cette culture qui est devenue une culture très acceptable, voire très in aussi dans l'esprit de certains et de certaines.
Tout à fait, c'est effectivement quelque chose qu'on voit de manière assez nette aux États-Unis notamment, alors un peu moins en Europe, même s'il y a aussi des exemples. Alors il y a un peu deux cas de figure. Il y a le cas de figure d'Elon Musk effectivement qui essaye de s'imposer comme voilà, le roi des geeks ou le chef des geeks, et d'utiliser ses cultures et ses références pour faire passer un message politique. Et puis il y a aussi une autre approche qui est beaucoup plus cynique, qui est le fait de gens qui en fait n'ont aucun intérêt pour ces cultures, ne les connaissent plutôt mal, mais pensent effectivement qu'il y a un réservoir de voix à trouver. Donc ça a été le cas notamment lors de la première campagne réussie de Donald Trump, où il y a eu un mouvement autour du jeu vidéo ultra conservateur qui a été nourri, co-créé et utilisé par Steve Bannon, qui était l'architecte de cette campagne électorale de Donald Trump, pour tenter de convaincre principalement des jeunes hommes de venir voter pour son candidat. Et Steve Bannon, il s'intéresse pas du tout aux jeux vidéo, en vérité. C'est vraiment une instrumentalisation cynique d'une réserve de voix, enfin ce qu'il estime être une réserve de voix.
Et puis il y a toutes ces comparaisons que l'on peut faire entre ces personnages de la culture geek et les personnages qui sont aujourd'hui soit au pouvoir de ces grandes entreprises, soit parfois même au pouvoir de certains pays ou de certains agglomérats politiques. Et cette comparaison, eh bien, vous en parlez aussi dans votre ouvrage, notamment avec la comparaison qui était régulièrement faite entre Elon Musk et Tony Stark. Pour ceux qui ne savent pas qui est Tony Stark, hein, il peut y en avoir. Tony Stark, Stark, c'est Iron Man, l'un des personnages de Marvel que l'on a pu revoir sur les écrans ces dix dernières années à travers toute une série de films qui sont sortis avec Iron Man en personnage principal ou en co-personnage. Cette comparaison, je l'ai découvert avec vous parce qu'après j'ai fait des recherches sur Internet, elle fait un débat de ouf entre les différentes personnes. Il y a des centaines de vidéos avec des gens qui débattent autour de l'idée, mais est-ce que Elon Musk c'est Tony Stark? Est-ce que Tony Stark c'est Elon Musk? Ben, je vous propose un extrait de l'une de ces vidéos.
Pourquoi cette comparaison récurrente avec Tony Stark? La réponse la plus évidente est que le réalisateur du film Iron Man, en 2008, s'est directement inspiré d'Elon Musk pour façonner le personnage de Tony Stark. Robert Downey Jr., l'interprète de Stark dans les films, a même rencontré Musk pour s'imprégner de son caractère. Et vous savez quoi? Certaines scènes ont même carrément été tournées dans les locaux de SpaceX, renforçant alors ce parallèle entre fiction et réalité. Mais vous vous en doutez, il y a bien entendu plein d'autres liens et de ressemblances entre Elon Musk et Tony Stark. Musk et Stark sont tous les deux des milliardaires excentriques. Ça, on l'avait remarqué. Ils aiment bien tous les deux les gadgets électroniques qui vont dans l'espace. Ouais, je crois qu'on l'a bien remarqué aussi. Les belles voitures, l'intelligence artificielle, et même cette idée un peu dingue d'augmenter l'humain grâce à la technologie. La comparaison semble tenir la route. Mais on va pas se mentir. Le fait de voir Tony Stark en Elon Musk, c'est une comparaison plutôt biaisée en réalité. Le fait d'associer une personne à un stéréotype en raison de caractéristiques similaires, c'est ce que l'on appelle le biais de représentativité. Considérer que Musk est le Tony Stark de notre monde, juste parce qu'ils sont tous les deux le stéréotype du milliardaire technophile avec une personnalité excentrique, ben, c'est en réalité un raisonnement fallacieux.
Extrait d'une vidéo qui est beaucoup plus longue que ça, du stratège du web, mais il y en a des dizaines d'autres, des vidéos comme ça, où l'on parle de cette comparaison qui est faite entre Tony Stark et Elon Musk. Et c'est pour ça que j'ai repris cette partie-là, cet élément intéressant du biais de la représentativité, parce que c'est bien là-dessus qu'on joue aussi pour essayer de se donner une image, une contenance, et c'est là-dessus que joue beaucoup Elon Musk en s'identifiant à des héros de la culture geek. Alors hier Tony Stark, aujourd'hui Batman par exemple.
Bien sûr, et je pense que c'est vraiment la toucher du doigt l'aspect le plus fondamental et le plus important de ce rapport à ces cultures, c'est que bah, en fait, ce sont des nouvelles mythologies, ce sont les mythologies contemporaines, alors que ça soit Batman, Tony Stark, Le Seigneur des Anneaux, tout un tas d'autres créations. Et du coup, ces créations, elles modèlent la façon dont nous, geeks et nous, grand public au sens plus large, nous voyons le monde et dont nous nous représentons la manière dont nous y agissons. Tony Stark inspiré sans doute d'Elon Musk, mais Elon Musk s'inspire aussi de Tony Stark. Et du coup, il y a une espèce de jeu comme ça, de rebond dans lequel ces créations s'inspirent bien sûr de la réalité, mais en retour, elles inspirent aussi la manière dont les geeks et notamment Elon Musk se comportent, leurs décisions. Je prends un exemple qui est dans l'actualité. Elon Musk vient d'annoncer qu'il allait créer une giga-usine pour construire des puces informatiques et tout un tas de matériel pour envoyer une intelligence artificielle dans l'espace proche. Ça, c'est un projet de science-fiction qui est directement inspiré de ce qu'il a lu, regardé, aimé quand il était enfant et adolescent. Donc il y a un peu ce jeu de miroir entre la création et les personnes qui la lisent, où ça a un impact sur qui nous sommes et sur la manière dont nous nous comportons aussi.
Mais vous dites que ce sont toujours des interprétations, parce que la plupart des créateurs de ces personnages ou des créateurs de certains mondes, parce qu'on va parler aussi par exemple des ambitions d'Elon Musk d'aller sur Mars, qui sont très inspirés de livres de science-fiction qui ne parlent pas du tout de la même façon que lui de ce voyage sur Mars, ben, de la même façon, souvent, les idéaux politiques dégagés derrière ces personnages ne sont pas du tout en adéquation avec ceux d'Elon Musk.
Alors tout à fait. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le monde des geeks, s'engueuler à propos du sens d'une œuvre, c'est vraiment la base. Voilà, c'est une activité extrêmement populaire. Voilà. Comme vous avez pu le constater, effectivement, il y a des centaines de podcasts, vidéos, livres, essais qui sont écrits pour débattre du sens de telle ou telle œuvre et de la manière dont on peut ou doit l'interpréter. C'est vraiment une activité, un sport quasiment national pour nous autres les geeks. Mais il demeure quand même qu'il y a un certain nombre de vérités un peu fondamentales qui sont notamment ce que l'auteur ou l'autrice d'une œuvre en dit lui-même ou elle-même. Et là, c'est vrai que force est de constater que Musk raconte souvent n'importe quoi, contredit frontalement les auteurs et les autrices de livres qu'il dit adorer. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais par exemple sur Le Seigneur des Anneaux, c'est absolument évident, il raconte des choses qui sont totalement à l'opposé de ce que Tolkien lui-même dit et écrit et répète inlassablement jusqu'à sa mort. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté un peu de se mettre dans sa tête par moment, puisque moi je me suis souvent demandé en écrivant ce livre, mais en fait, est-ce qu'on a lu vraiment les mêmes nouvelles, les mêmes romans, est-ce qu'on a regardé les mêmes films, parce qu'il raconte des choses tellement à l'opposé de ma compréhension et de la compréhension générale le plus souvent de ses œuvres, qu'on peut se demander comment où est-ce qu'il va chercher tout ça, et à quel point en fait ces préjugés politiques ou ce qu'il cherche à démontrer teintent l'interprétation qu'il fait de ses œuvres.
On va revenir d'ailleurs sur ces accusations souvent où il revire un petit peu son
récurrente d'Elon Musk, alors pas uniquement au sein de la culture geek, hein, de manière générale, il raconte lui-même assez volontiers que son parcours politique qu'il a amené globalement du centre vers l'extrême droite, il est lié en grande partie à ça, à cette réalisation selon lui que la culture woke et l'idéologie woke, comme il l'appelle, faisait peser selon lui toujours une menace carrément sur l'humanité. Et donc du coup, ça colore forcément toute son interprétation de tout ce qu'il fait dans la vie, y compris la manière dont il considère certaines œuvres et certaines cultures geek. Et c'est notamment le cas, et c'est très visible, de Star Wars. Voilà, Star Wars qui, comme pour lui, comme pour beaucoup de geeks, est voilà, une référence absolue. La Guerre des Étoiles, c'est un film que les gens de sa génération ont vu au cinéma, en sont tombés amoureux, et c'est resté une référence omniprésente dans sa culture personnelle, et dans la mienne aussi. voilà, entre-temps, la licence a été racheté par Disney, et Disney c'est un des ennemis d'Elon Musk, notamment parce que Elon Musk pense que Disney est woke. Alors, ce qui est par ailleurs un peu absurde et assez faux, parce que oui, Disney c'est une multinationale, c'est une multinationale qui cherche surtout à faire de l'argent, à satisfaire ses actionnaires. Ça produit, ses studios produisent des divertissements très grand public, c'est pas vraiment politisé. Franchement, les films de Disney sont. Il y a une très légère surcouche un peu politique éventuellement, mais voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose de revendicatif et certainement non pas à la gauche de la gauche.
Vous parlez,
parce que voilà, ça a pollué Star Wars, quoi.
Vous parlez aussi évidemment de toutes ces œuvres qui font aujourd'hui le fondement de la culture geek telle qu'on la connaît aujourd'hui, et vous vous demandez quand même régulièrement dans le livre, est-ce qu'il a bien lu l'œuvre, est-ce qu'il a bien lu le livre, est-ce qu'il a bien vu le film, parce que vous avez vraiment des langages et des interprétations qui sont extrêmement différentes, à tel point qu'à un moment on peut se poser la question de savoir si ces gens qui admirent et qui sont souvent de la mouvance d'extrême droite ces œuvres de la culture geek ont effectivement bien compris les messages qui étaient sous-jacents à ces œuvres.
Alors, moi, c'est ma théorie que Musk, notamment, il y a une partie des messages, il les a pas compris, ou alors il les a oubliés, parce que je pense qu'il y a aussi un certain nombre de ses œuvres, notamment de science-fiction, il les a lus ado, et il les a probablement pas relus depuis, donc peut-être que...
Bah, avec une lecture très manichéenne, en tout cas, c'est très manichéen, hein, la manière dont il traduit tout ça.
Bien sûr, mais c'est aussi parfois une réinterprétation a posteriori, peut-être. Voilà, je lui laisse le bénéfice du doute là-dessus, parce que par ailleurs, ses œuvres, elles sont pas réservées aux gens de gauche. Voilà, tout le monde a le droit d'aimer Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Dune. Voilà, il y a pas de, c'est les œuvres qui elles appartiennent pas à un camp politique. Il y a des militants politiques, je pense notamment à Giorgia Meloni et à une partie importante de la droite dure italienne qui se revendiquent fortement du Seigneur des Anneaux. Ont vraiment lu et compris jusqu'à un certain point au moins Le Seigneur des Anneaux, connaissent très bien l'œuvre. Voilà, c'est par intérêt sincère pour cette œuvre qu'ils s'en réclament. Et puis il y a des gens comme Elon Musk qui s'en servent aussi un peu comme prétexte en plaquant leurs idéologies sur un vague sens qu'ils essayent parfois d'y retrouver. Mais typiquement sur par exemple Dune, voilà, dans le troisième film a été annoncé récemment, enfin la bande-annonce a été diffusée récemment, Elon Musk qui aujourd'hui il fait totalement l'impasse sur le message écologique de cette œuvre qui est fondamentale dans toute l'œuvre de Frank Herbert et spécialement dans Dune, alors que c'est quelque chose dont il parlait il y a encore 15 ans, au moment où lui-même s'intéressait aussi à l'écologie et où il lançait Tesla. Et aujourd'hui, ça a totalement disparu de son discours sur cette œuvre.
Pour revenir sur Le Seigneur des Anneaux, vous dites « Le Seigneur des Anneaux est souvent lu comme une œuvre antimoderne et chrétienne. Elle est au cœur de la formation idéologique des deux plus proches alliés politiques d'Elon Musk, la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni, d'extrême droite, et le vice-président des États-Unis, Jed Vance, tous deux catholiques. Pour Giorgia Meloni, qu'Elon Musk d'ailleurs considère comme une partenaire politique en Europe, Tolkien pourrait mieux définir que nous les valeurs du camp conservateur. » C'est donc, bon, quelque part, on peut dire aussi, chacun voit midi à sa porte. Hein.
Exactement, et c'est particulièrement vrai, je pense, du Seigneur des Anneaux, qui est une œuvre qui, en fait, dit quelque chose d'extrêmement universel. C'est vraiment c'est l'histoire d'un petit groupe qui s'unit malgré ses différences pour lutter contre un mal qui est bien plus fort que lui et qui finit par triompher grâce à des valeurs qui sont en fait très universelles. L'entraide, la solidarité, l'ouverture à l'autre, le travail collectif et la discussion et la négociation. Donc c'est assez facile d'y voir une fable effectivement chrétienne, parce que Tolkien était lui-même un catholique très pratiquant, et donc effectivement il y a des éléments du christianisme qui imprègnent toute son œuvre. Donc on peut faire une lecture qui est très axée là-dessus et y voir un éloge des valeurs conservatrices. On peut aussi faire la lecture totalement inverse très facilement et dire par exemple bah en fait la communauté de l'anneau elle est composée de gens de toutes les classes sociales, et au final ceux qui sauvent la terre du milieu ce sont les plus pauvres parmi les pauvres, puisque c'est notamment Sam Gamgee qui est un homme à tout faire qui ne possède absolument rien, et c'est lui qui joue le rôle clé qui permet de sauver la terre du milieu. Donc voilà, c'est très facile de projeter sur le Seigneur des Anneaux, qui est une espèce de thèse de Rorschach politique, ses propres convictions, et toutes ces lectures sont tout à fait légitimes, intéressantes. Voilà, pareil, vous trouverez des milliers d'heures de vidéos de débats sur les interprétations qu'on peut faire du Seigneur des Anneaux. Par contre, il y a un certain nombre de choses fondamentales que Tolkien a dites lui-même, qui sont que le Seigneur des Anneaux, c'est une fable sur le pouvoir et la manière dont le pouvoir corrompt. Et ça, c'est la grande leçon sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord, tout le monde sauf Elon Musk, visiblement.
On va revenir aussi sur les jeux avec vous, parce que Shadows, situé dans le Japon féodal et dont l'un des deux personnages principaux est noir.
Alors, tout à fait, c'est un personnage qui est vaguement inspiré d'un personnage historique qui a réellement existé, mais le climat politique, et notamment le climat politique sur les réseaux sociaux étant ce qu'il est, cette présentation par Ubisoft a immédiatement déclenché une série de messages racistes en Europe, mais aussi au Japon, où la droite dure, qui aujourd'hui est au pouvoir, s'est pas mal emparée de ce sujet, et évidemment ça, Elon Musk qui a vu une confirmation que effectivement des grands studios comme Ubisoft étaient devenus totalement woke, cherchaient à imposer des idées politiques dans les jeux. Et globalement, c'est toujours un peu, on en revient toujours un peu à la même chose, c'est-à-dire que certainement il y a des gens qui ont des idées politiques dans les studios de jeux vidéo comme dans les studios de production, mais ce sont des entreprises, elles produisent des jeux en espérant qu'ils se vendent et qu'ils aient un grand succès commercial. Donc Elon Musk il confond aussi en partie le fait que bah oui, aujourd'hui en fait les gens ils sont, la majorité des gens sont pas choqués qu'on explore un Japon, un petit bout de l'histoire du Japon dans lequel oui il y a eu un samouraï noir, et ben voilà, ça fait partie, c'est peut-être anecdotique mais c'est intéressant, et puis on peut tout à fait en faire un jeu vidéo qui est intéressant autour. Par ailleurs, c'est pas le truc le moins crédible dans un Assassin's Creed, parce que les gens qui connaissent la licence savent que ça parle aussi pas mal de voyages dans le temps, de pouvoirs un peu magiques et de choses beaucoup moins réalistes encore que ces personnages. Mais voilà, c'est encore une bonne illustration, je pense, de la manière dont pour Elon Musk tout se lit à travers ce prisme de savoir est-ce que c'est woke ou est-ce que c'est pas woke. Et d'une certaine manière, c'est aussi pour lui, je pense, une quête de pouvoir, parce qu'en fait il voudrait pouvoir décider lui de ce qu'est un bon jeu ou un mauvais jeu, et d'imposer sa propre vision à un public beaucoup plus large, parce que personne l'oblige à jouer à Assassin's Creed Shadow s'il le veut pas.
Mais ça pourrait
tente d'instrumentaliser toute une série de polémiques vraiment sorties complètement de leur contexte et qui n'ont quasiment aucun fond, mais dont le message récurrent est de dire, notamment aux jeunes hommes, en fait, la gauche est en train d'essayer de vous voler vos jeux vidéo, elle va faire interdire tout un tas de types de jeux que vous aimez bien, désormais, il n'y en a plus que pour des jeux, je caricature, mais à peine un peu intello et pour filles, vos jeux vidéo sont en train de disparaître, on vous respecte pas en tant que joueur, etc., etc.